Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Stade, l'épidémie recule deux fois moins rapidement qu'en novembre. Ensuite, la pression hospitalière reste extrêmement forte et la situation reste très tendue, en particulier dans certaines régions.
La décrue de l'épidémie se fait attendre, tout comme le calendrier du déconfinement. Les restrictions de déplacement devraient être levées le 3 mai. Pour le reste, le gouvernement reste prudent. Comment convaincre les Français de ne plus bouder le vaccin AstraZeneca ? L'exécutif envisage de lancer une campagne de communication, si possible, avec des stars du petit écran. La France va imposer une quarantaine obligatoire aux voyageurs en provenance d'Inde, pays submergé par un nouveau variant. 300 000 contaminations et plus de 2000 morts en 24 heures. Justice a été rendue. L'ex-policier Derek Chauvin, reconnu coupable du meurtre de George Floyd. L'Amérique célèbre un verdict historique, mais aussi une jeune fille de 17 ans sans qui ce drame aurait pu ne jamais être révélé au grand jour. Et puis le foot, la suite des quarts de finale de la Coupe de France avec en ce moment un choc entre le 4e et le 3e de Ligue 1. Lyon face à l'AS Monaco, Maxime Choche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. 3 minutes, c'est la mi-temps depuis 3 minutes, pardon, toujours 0-0 entre les deux équipes.
Merci Maxime et à tout de suite. La météo, elle sera printanière demain sur la moitié nord du pays avec beaucoup de soleil. En revanche, il y aura des nuages au sud de la Loire, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a rebondi ce soir après sa forte baisse d'hier, plus 0,74% à 6210 points. Et tous les détails à venir dans Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Les Français anticipent-ils l'éventuelle levée des restrictions de déplacement début mai ? Y a-t-il un boom des réservations chez les loueurs de voitures ? Et c'est l'une des questions que posera Emmanuel Duteil à son invité Jean-Philippe Doyen, le président de Sixte France. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Comment donner des perspectives sans aller plus vite que l'épidémie ? C'est une nouvelle fois la difficile équation que doit résoudre l'exécutif. Dans son allocution fin mars, Emmanuel Macron a évoqué l'échéance de la mi-mai pour un début de retour à une vie normale. Sera-t-elle tenue cette échéance ? C'est la question qui a été abordée ce matin en Conseil de défense sanitaire. Aurélie Herbemont, le gouvernement veut vouloir alléger les restrictions sans pour autant ouvrir toutes les vannes.
Exactement, parce que l'exécutif a appris qu'il fallait être prudent avec le Covid. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs dit en substance à ses ministres. Le pire serait de devoir revenir en arrière, donc ne faites pas des déclarations avec des dates trop précises. Même si la feuille de route tracée par le président lui-même fin mars reste la base de travail, avec comme objectif réaffirmé la suppression de la limite de 10 km pour se déplacer à partir du 3 mai. L'exécutif envisage aussi pour la mi-mai une première étape de réouverture concernant les commerces, certaines terrasses et certains lieux de culture. Les mots sont importants. Première étape, certains, certaines. Vous avez compris, on va rester sur du progressif. Car comme le reconnaît un conseiller à Matignon, on est loin d'être en pleine dégringolade de l'épidémie. Et les allègements ne se feront pas forcément au même rythme partout. L'option d'un déconfinement territorialisé est sur la table car la situation est très différente selon les départements. Seule certitude, quand il s'agira de lever les restrictions, c'est Emmanuel Macron qui l'annoncera. Objectif, tenir le calendrier grâce à la vaccination qui va, dixit un conseiller, un peu plus vite que prévu.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Si l'exécutif reste volontairement flou sur le calendrier du déconfinement, c'est parce que la décrue de l'épidémie est encore faible. Certes, les chiffres s'améliorent, mais ils restent préoccupants, comme l'a reconnu tout à l'heure le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Après une semaine de vacances et deux semaines et demie de mesures supplémentaires de freinage, les premiers effets sont perceptibles. Le nombre de nouveaux cas détectés diminue, tout comme le taux d'incidence. Il y a aujourd'hui très légèrement moins de patients hospitalisés que la semaine dernière et le nombre de personnes en réanimation tend à se stabiliser. Il apparaît que nous pourrions être au pic ou proche de l'être. Ce sont des résultats positifs, des résultats encourageant, mais je veux le dire, des résultats encore insuffisants.
Il apparaît que nous pourrions être au pic de l'épidémie, ou proche de l'être. Anne Le Gall, ça veut dire que la pression extrêmement forte à laquelle sont soumis nos hôpitaux va perdurer encore de longues semaines.
Exactement, car le fait d'être au pic ne signifie pas la décrue, et même si l'incidence, donc le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, baisse dans la plupart des grandes villes, et elle a reculé de 17% en deux semaines en moyenne en France, le problème c'est qu'à l'hôpital, on ne voit pas encore d'embellie, en raison du décalage de 10-15 jours entre les contaminations et l'aggravation des symptômes, une situation qui rend certains médecins très dubitatifs sur la levée des restrictions mi-mai. C'est le cas du professeur Dominique Rossi, président de la commission médicale de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille.
Le nombre de malades qui entrent en réanimation augmente de jour en jour. Aujourd'hui, on est sur un plateau extrêmement haut depuis plusieurs mois et toutes les semaines, on se prend une ou deux marches supplémentaires. Je ne vois pas d'amélioration nette en réanimation avant 10-15 jours.
Et il n'y a pas qu'à Marseille, car au niveau national, le nombre de patients en réanimation reste à un niveau élevé. On en compte presque 6000 actuellement. C'est plus que lors du pic de la deuxième vague. On compte aussi toujours plus de 350 décès quotidiens. Et le problème, c'est qu'avec la rentrée scolaire pour tout le monde le 3 mai, il est difficile d'anticiper la situation épidémique du 15 mai.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Vous l'évoquiez pour ce qui est des écoles, rentrée lundi pour les maternelles et les primaires, avec un nouveau protocole sanitaire en cours d'élaboration. Il sera annoncé demain soir lors d'une conférence de presse de Jean Castex et de Jean-Michel Blanquer. Du côté de la vaccination, bonne nouvelle, la campagne a enfin atteint un rythme de croisière satisfaisant. Un peu plus de 13 millions de Français ont reçu au moins une première dose. Cela représente un quart des adultes. Une accélération qui devrait s'amplifier dans les semaines qui viennent avec l'arrivée du vaccin de Johnson & Johnson. Le laboratoire annonce reprendre ses livraisons pour l'Europe au lendemain du feu vert de l'Agence européenne des médicaments qui juge son rapport bénéfice-risque favorable malgré de rares cas de thrombose. Des caillots sanguins extrêmement rares, mais que le vaccin AstraZeneca, cette fois, traîne comme un caillou dans la chaussure. Illustration à Nice, samedi dernier, où il n'y avait que 58 petits candidats pour 4000 doses. Alors, pour lever les réticences autour de ce sérum, le gouvernement réfléchit à faire appel à des personnalités pour une campagne de communication, Hélène Terzian.
Et oui, le Premier ministre a eu beau donner de sa personne en se faisant vacciner à l'AstraZeneca devant les caméras. Cela n'a visiblement pas suffi. Le gouvernement veut solliciter des stars de la chanson du petit écran de plus de 55 ans. Pour cela, Matignon a même chargé le service d'information du gouvernement de proposer un plan de communication. Un outil évoqué tout à l'heure par Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Alors, à qui pense l'exécutif? Eh bien, certains au gouvernement rêvent de voir des stars de TF1 comme l'animateur Arthur ou encore la comédienne Mimi Mathy. Selon Le Canard Enchaîné, Jean Castex aurait même soufflé le nom de la chanteuse Sheila. Gabriel Attal a également parlé de responsable public. Sitôt dit, sitôt fait. La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, 60 ans, s'est fait vacciner devant une caméra. Et samedi, c'est Jean-Michel Blanquer, 56 ans, qui recevra une dose du vaccin AstraZeneca.
Merci Hélène Terzian. La France qui tente de se prémunir contre les variants, les passagers en provenance d'Inde seront soumis désormais à une quarantaine à leur arrivée à Paris, un isolement obligatoire de 10 jours, comme pour ceux qui arrivent du Brésil, du Chili, d'Argentine, de Guyane et d'Afrique du Sud. Il faut dire que la situation en Inde est particulièrement préoccupante, Johanna Chabas.
Oui, avec près de 300 000 cas et plus de 2000 décès en 24 heures, la deuxième vague frappe le pays comme un ouragan, selon le Premier ministre. En à peine deux mois, le nombre de malades a été multiplié par 20, une hausse des contaminations due à un relâchement des mesures sanitaires. Les fêtes religieuses ont été autorisées et ont réuni près de 4 millions de personnes dans le nord du pays. Mais l'explosion des cas s'expliquerait surtout par la présence d'un nouveau variant, le B1.617, son surnom, le double mutant. Car parmi ces nombreuses mutations, deux que l'on connaît déjà, présentes dans les variants californiens et brésiliens, le B1.617 serait très contagieux et pourrait déjouer les anticorps. Ce variant représente 11% des contaminations dans le pays. Le Premier ministre a donc demandé plus d'efforts à la population pour empêcher la propagation du virus, alors que les hôpitaux sont saturés et les stocks d'oxygène dangereusement bas. Depuis lundi soir, la capitale New Delhi est confinée pour une semaine et à partir du 1er mai, tous les adultes pourront se faire vacciner.
Johanna Chabas, le domicile d'un policier habitant Tourcoing a été la cible de tirs de mortier cet après-midi alors que l'agent était chez lui en famille avec ses enfants. Personne, heureusement, n'a été blessé. Les tireurs ont pris la fuite, mais ils sont en cours d'identification grâce aux vidéos qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous signale notre correspondant dans la région, Lionel Gougelot. On ignore pour l'heure si cet incident a un lien ou non avec les violences qui embrasent la ville de Tourcoing depuis plusieurs nuits consécutives.
Écoutez le monde changer. Europe Soir. Le 22-22-30.
Un tournant dans l'histoire. Voilà comment l'avocat de la famille de George Floyd a réagi après le verdict au procès de Derek Chauvin, l'ex-policier reconnu coupable de meurtre et qui dort ce soir en prison. Barack Obama, Bill Clinton ou encore Boris Johnson ont salué la décision hier soir du tribunal de Minneapolis où immédiatement la foule qui s'était massée devant le bâtiment a explosé de joie. Des scènes de liesse qui marquent la fin de ce long procès suivi dans le monde entier. Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Cette affaire n'aurait sans doute jamais eu ce retentissement sans une adolescente qui a eu le réflexe de sortir son téléphone pour filmer l'agonie de George Floyd.
Oui, le monde devait voir ce que je voyais. C'est comme cela que Darnella Frazier a expliqué son geste. Et depuis l'annonce du verdict, beaucoup aux États-Unis lui rendent hommage. L'adolescente se promenait avec son petit cousin dans les rues de Minneapolis lorsqu'elle est tombée sur la violente arrestation de George Floyd. Elle a filmé la mort de cet Afro-Américain pendant près de 10 minutes, étouffée sous le genou de Derek Chauvin, puis a posté la vidéo sur ses réseaux sociaux. L'affaire s'est très vite embrasée. Lorsqu'elle a témoigné au procès de l'ancien policier il y a quelques semaines, elle a dit avoir vu un George Floyd terrifiée, avoir tout de suite pensé que ce dont elle était témoin n'était pas juste. Elle a déclaré qu'en regardant George Floyd, elle voyait son père, ses frères, ses cousins. Dans un article, le Washington Post a écrit « Elle a certainement changé le monde en filmant la scène ». Darnella, qui dit être encore traumatisée par le drame auquel elle a assisté, représente la nouvelle génération d'Afro-Américains pour qui les téléphones sont les nouvelles armes pour lutter contre les bavures policières. Sans elle, la version des faits des officiers n'aurait sûrement pas été contestée. Sur son site internet, le département de police avait écrit que Floyd avait résisté à l'arrestation et était décédé d'un incident médical.
Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Emmanuel Macron assistera vendredi aux obsèques nationales de l'ancien président tchadien Idriss Déby, mortellement blessé lors d'une opération militaire contre des rebelles. La présidence de la République tchadienne est désormais assurée par son fils, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui détient les pleins pouvoirs. L'opposition dénonce un coup d'État institutionnel. Prenons maintenant la direction du Royaume-Uni, royaume qui n'a pas exceptionnellement célébré aujourd'hui les 95 ans de la reine Elisabeth II. La souveraine, vous le savez, est en deuil. Son mari, le prince Philippe, a été enterré samedi dernier. Pas de grande cérémonie d'anniversaire donc, ni de tir de canon, mais un communiqué dans lequel la reine remercie ses sujets qui lui ont témoigné leur soutien depuis la mort de son époux. Des sujets très inquiets pour leur queen, comme l'a constaté devant Buckingham Palace notre correspondante Anaïs Cordoba.
Quelques jours après les funérailles du prince Philippe, l'image de la reine n'a pas quitté l'esprit des Britanniques. Alors en passant devant Buckingham Palace, Jane a le cœur serré comme de nombreux compatriotes aujourd'hui.
La reine est la matriarche de ce pays et du Commonwealth. C'est un moment tellement triste pour elle et pour nous aussi. On est une nation en deuil, ça m'émeut. Je lui souhaite juste bonheur et paix pour le temps qui lui reste.
L'âge avancé de la reine et le choc de la perte de son époux auront-ils un impact sur son règne? C'est la question du moment qui divise les Britanniques.
Personnellement, je pense qu'elle pourrait abdiquer dans les deux prochaines années. Ce serait une terrible perte, pas seulement pour les Britanniques et le Commonwealth, mais pour le monde entier.
C'est la femme la plus forte sur cette terre et elle va poursuivre dans son dévouement et son devoir, car c'est ce qu'aurait aussi voulu le prince Philippe.
Au palais, un autre anniversaire est déjà en préparation, celui des 70 ans de la reine sur le trône, le jubilé de platine qui aura lieu l'an prochain. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Notez qu'il n'y a pas que la reine Elisabeth II qui fête aujourd'hui son anniversaire, il y a aussi la ville de Rome, vieille, tenez-vous bien, de 2774 ans. Ça fait beaucoup de bougies à souffler. Thomas Pesquet va devoir patienter encore un peu. Son décollage vers la station spatiale internationale est reportée de 24 heures. La fusée devait s'envoler demain à la mi-journée depuis Cap Canaveral, mais en raison de conditions météo défavorables, la NASA a décidé de décaler le lancement à vendredi. Réglez vos montres, ce sera à 11h49 pétante. En football, la Super League se déballonne. 10 des 12 clubs à l'origine de cette compétition fermée ont jeté l'éponge face à l'opposition générale. Il ne reste plus que le Real Madrid et le FC Barcelone qui n'ont pour l'heure pas encore acté l'échec de ce projet de compétition privée. Elle, en revanche, est bien vivante et c'est tant mieux. La Coupe de France avec en ce moment le dernier quart de finale, Lyon-AS Monaco. Match que l'on suit avec vous, Maxime Scholl. Vous êtes en direct du Groupama Stadium.
Exactement, c'est la mi-temps. Le jeu qui va reprendre dans quelques secondes. 0-0 après une première mi-temps d'abord électrique avec 3 cartons jaunes sortis dans les 10 premières minutes et même un carton rouge à la 23e minute sorti par l'arbitre Stéphanie Frappard contre l'entraîneur lyonnais Rudy Garcia, a priori pour contestation. Ça y est, le coup d'envoi de cette deuxième période vient d'être donné. Les joueurs de l'Olympique Lyonnais, 4e de la Ligue 1, à 1 point de Monaco, le 3e du championnat. Les Lyonnais qui ont dominé de la tête et des épaules ce premier acte. 6 occasions nettes pour les Gones, dont 2 frappes de Cornet et Cacré à la demi-heure de jeu qui ont terminé sur la barre transversale, ainsi qu'une tête de Marcelo, le Brésilien de l'OL, sur le poteau, alors que Majeski, le gardien monégasque, ce soir était battu. Des joueurs de la Principauté qui, eux, n'ont jamais véritablement réussi à porter le danger devant le but lyonnais, alors que pourtant leur duo de feu Ben Yedder-Folland, 32 buts à eux deux en Ligue 1, est aligné ce soir par Nico Kovac après 46 minutes de jeu. Donc ici au Groupama Stadium, toujours 0-0 dans ce quart de finale de Coupe de France entre Lyon et Monaco.
Merci Maxime Choche en direct de Lyon pour Europe 1. Prochain point dans quelques minutes à la fin de cette édition. Notez que le PSG s'est tout à l'heure facilement qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Les Parisiens ont étrié le SCO d'Angers 5-0 avec un triplé d'Icardi. La météo, Anissa Haddadi, la journée de demain sera très agréable au nord.
Oui, c'est grâce à un anticyclone, Julien, anticyclone qui est situé sur les îles britanniques. Du coup, le soleil règne très généreusement pour les régions situées au nord de la Loire. Donc demain, de la Bretagne jusqu'à l'Alsace, en passant par la région parisienne et les Hauts-de-France, le soleil brille dans un ciel presque sans nuages. C'est vrai que c'est très agréable. Au sud de la Loire, le ciel est un petit peu plus variable, avec sur les Pyrénées un ciel très couvert, avec des averses orageuses, une limite pluie-neige fixée sur les Pyrénées à 2000 mètres. Le Languedoc et le Roussillon se retrouvent aussi sous les nuages. Et puis en Corse, nous avons une journée assez agitée, hein, avec de la pluie de façon plus importante que ces derniers jours. Sur le reste de la moitié sud, là c'est un ciel qui alterne entre nuages et éclaircies. Côté température, pas de gelée matinale demain. Nous aurons un petit degré à Montluçon, 2 à Clermont-Ferrand, 4 pour Caen et Belfort, 6 degrés à Paris, 8 pour Marseille, 9 à La Rochelle et 10 degrés à Bastia et Biarritz. Et puis dans l'après-midi, c'est assez stationnaire. Hein. Nous avons 14 à 20 degrés sur la moitié nord, 15 degrés à Lille, 17 à Caen, 19 pour Paris, jusqu'à 19 degrés au bord de la Méditerranée avec par exemple 18 degrés à Nice et jusqu'à 22 voire 23 degrés demain après-midi pour Mont-de-Marsan.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com, suivi de l'interview Echo. Les Français anticipent-ils déjà l'éventuelle levée des restrictions de déplacement début mai? Y a-t-il un boom des réservations chez les loueurs de voitures? Eh bien, c'est la question que posera Emmanuel Duteil à son invité, le président de Sixte France. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. On passe à Top à Wall Street. Et c'est avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Après deux séances compliquées à Wall Street, les indices remontent, les investisseurs partent à la chasse aux bonnes affaires.
Oui, les investisseurs retrouvent le moral. Le Dow Jones reprend 0,94%, 34 138 points. Le Nasdaq lui gagne 1,2%, 13 950 points. La chute du jour, elle est pour Netflix. Le titre plonge de 7,4% après une grosse déception sur les nouveaux abonnements à la plateforme en début d'année. Le catalogue de films et de séries a souffert de retards de production dus au coronavirus. Les autres stars de la tech s'en sortent mieux. Apple reprend un petit 0,3%. Amazon plus 0,8%. Tesla bondit même de 3,5%. Un mot du pétrole brut qui lâche encore 2,1%. 61,33$ le baril sur le NYMEX. Et puis l'euro est presque stable. 1,2029$ avant la réunion de la Banque Centrale Européenne demain.
Le CAC 40 est lui aussi reparti à la hausse après le gros raté d'hier, un rebond grâce notamment aux bonnes performances de Carrefour.
Oui, le marché parisien reprend déjà des couleurs, plus 0,74% pour le CAC 40. 6210 points ce soir. Après les déceptions pour Danone et Atos hier, Carrefour inverse la tendance. Le distributeur a publié un chiffre d'affaires de 18,6 milliards d'euros au premier trimestre. Et grâce à ce très bon début d'année, le groupe annonce le rachat de ses propres actions pour un montant total de 500 millions d'euros. Carrefour grimpe de 5%.
Et Carrefour partage la vedette ce soir avec Kering.
Le chiffre d'affaires du groupe de luxe a flambé de 26% au premier trimestre grâce au fort rebond des ventes de Gucci, sa marque vedette, et grâce aussi au dynamisme de son activité en Asie et aux États-Unis. L'action avance de plus de 2%. C'est du vert ce soir pour les marchés en Europe. Gain de 0,4% pour Francfort et de 0,5% pour Londres. Milan reprend 0,3%, Madrid plus 0,7%, plus 1,3% pour Amsterdam et le CAC 40 à Paris. Il gagne 0,7%, 6 210 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de boursier.com et à demain. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Dutheil, c'est à vous.
Bonsoir Jean-Philippe Doyen.
Bonsoir Emmanuel.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête du loueur de voitures Sixte. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est qu'on vient de l'entendre là dans le journal de Julien Pierce. Il est bien possible qu'à partir du 3 mai, on puisse circuler à nouveau normalement en France. En tout cas, c'est plus qu'une piste. Elle n'a pas été démentie pour le moment par l'exécutif. Est-ce que là, déjà ce soir, on peut voir un frémissement avec ces premières informations ou c'est trop tôt, Jean-Philippe Doyen ?
Encore un petit peu trop tôt, on espère d'ici quelques jours voir un premier frémissement dans le nombre de réservations enregistrées. Pour l'instant, c'est vrai que c'est encore un petit peu trop tôt.
Un petit peu trop tôt, malgré tout pour vous, ce serait une excellente nouvelle. Alors même si cette année n'est pas une année à pont, hein, puisque pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, le 1er et le 8 mai tombent des week-ends, mais on a quand même le week-end de l'Ascension, on a le lundi de Pentecôte pour ceux qui ne travaillent pas ce jour-là. Là, ça va être des week-ends extrêmement importants pour vous potentiellement.
Potentiellement important, et c'est vrai que globalement, on a effectivement le sentiment qu'on s'approche du bout du tunnel. Et c'est effectivement, je crois, une excellente nouvelle, non seulement pour Sixte, mais pour toute l'industrie touristique, et puis pour tous nos clients nombreux qui ont respecté le confinement, mais qui sont aussi impatients de pouvoir s'aérer un petit peu et quitter la ville dans laquelle ils habitent, ne serait-ce que pour quelques jours. Donc on espère en effet qu'avec cette levée progressive des restrictions, avec le développement de la vaccination, on va avoir de plus en plus de clients qui vont pouvoir revenir dans nos agences.
Parce que vous sentez donc cette envie, par exemple sur le week-end de Pâques, quand on nous a dit « vous pouvez circuler un peu une dernière fois », entre guillemets, là j'imagine que vous avez eu un boom de réservations.
Alors, on a enregistré, vous parliez de frémissement tout à l'heure, effectivement il y a eu une petite hausse du nombre de réservations à Pâques. Néanmoins, on voit quand même que contrairement aux idées reçues, il y a aussi beaucoup de Français qui respectent les règles. Et donc globalement, en ces phases de confinement, on est quand même sur des niveaux d'activité qui sont très inférieurs à ceux qu'on a pu connaître par le passé, notamment aussi parce que la clientèle internationale est absente. Mais en effet, vous évoquiez le week-end de l'Ascension, on espère qu'on aura effectivement un pic sur ce week-end-là.
Comment on s'organise, comme vous, quand on est un loueur de voitures ? C'est-à-dire que là, cet été, vous avez loué autant de voitures que pour l'été 2019, par exemple ? Ou comment on prépare un moment si important ?
Vous avez raison, c'est assez compliqué parce que on a une visibilité assez limitée sur le niveau de réservation. En réalité, les clients sont un peu attentistes, hein, ils ont tendance à réserver plutôt à la dernière minute puisqu'ils ne savent pas exactement à quelle sauce en matière de restrictions de déplacement ils seront mangés. Donc pour l'instant, on sent qu'il y a encore un petit peu d'attentisme, que les gens n'ont pas encore tous réservés.
Mais oui, mais vous, de votre côté, vous, quand on est patron de Sixte, l'un des plus gros loueurs de France, comment on fait ? Il faut bien que vous ayez des voitures si jamais la demande explose. Vous n'allez pas les commander au dernier moment.
Exactement, vous avez raison. Malgré cette visibilité limitée, on est bien obligé de prendre des options stratégiques à l'avance. Par exemple, les véhicules pour l'été 2021, ce sont des véhicules qu'on achète dès l'automne 2020. Et donc, vous connaissez Sixte, hein, on a une publicité décalée, on aime diffuser de la bonne humeur et c'était des esprits positifs. On se l'applique également à notre politique entrepreneuriale. Donc, on est plutôt positif pour l'été à venir et on a fait en sorte...
Plutôt positif, ça veut dire quoi ? C'est avoir une gamme à peu près similaire à l'été 2019 ?
Alors, pour la clientèle domestique française, oui. Est-ce qu'on aura cet été autant de clients internationaux qu'on a pu l'avoir en 2019 ? C'est sans doute pas le cas. Mais en tout cas, pour la clientèle française, on espère effectivement qu'on sera sur des niveaux d'activité proches de ceux de 2019, en effet.
La crise a été cataclysmique, hein. Il n'y a pas d'autre mot pour des secteurs d'activité comme le vôtre. On en sort comment ? Ça a servi à préparer l'entreprise pour qu'elle soit meilleure demain. Parce que j'ai notamment vu une interview de vous où vous disiez « on veut devenir le Netflix de la mobilité ». Ça veut dire quoi ?
Alors, on a la chance chez SIX d'être une entreprise très, très solide et je crois qu'on a effectivement traversé la crise de meilleure façon que de nombreux concurrents internationaux. Et donc, on a pris le parti de chez SIX de continuer à investir. On a beaucoup innové. On a, vous évoquiez cette interview, on a par exemple lancé un produit qui s'appelle SIX Plus, qui est un produit d'abonnement automobile qui permet aux gens qui ne souhaitent pas forcément posséder une voiture de la louer pendant plusieurs mois sans engagement. Donc c'est un exemple des innovations que nous avons lancées, mais nous nous sommes effectivement préparés à la suite en se disant que cette pandémie, c'était un mauvais moment à passer et qu'il fallait en profiter également pour en ressortir quelque part plus fort en offrant un service de toujours meilleure qualité à nos clients, toujours plus de facilité.
Est-ce que, prenons un exemple, ce qui nous énerve tous quand on loue une voiture, c'est d'attendre longtemps au comptoir pour signer un papier. Est-ce que ça vous a permis d'accélérer sur la numérisation ?
Sur la digitalisation, complètement. Aujourd'hui, vous avez dans de nombreuses agences la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle notre Digital Sales Service sans forcément passer par la case comptoir. Et c'est vrai que c'est un service qui va continuer à se développer. C'est un exemple parmi d'autres.
Alors, parmi les grosses évolutions également, on le voit, le boom des voitures électriques, le boom des voitures hybrides. Est-ce que cette demande également de la part des clients quand ils partent en vacances, elle augmente ?
Elle augmente progressivement. Pour être honnête avec vous, aujourd'hui, les clients qui partent loin de leur domicile, ils ont encore un petit peu tendance à privilégier les véhicules thermiques parce qu'ils savent pas très bien où ils vont pouvoir recharger leur véhicule sur leur chemin. Néanmoins, c'est une offre qui augmente progressivement. J'ai évoqué les innovations chez SIX. Nous, on a envie d'initier de plus en plus de clients à l'électromobilité. On aura cet été près de 30% de notre flotte qui sera hybride et électrique. Donc,
ah oui, c'est énorme quand même. Une voiture sur trois chez SIX sera hybride ou électrique.
Exactement. Pour l'été qui vient, vous aurez la possibilité chez nous d'avoir une grande variété de véhicules hybrides et électriques, de la petite citadine à la luxueuse berline.
Et vous arrivez à faire ça sans que ça coûte plus cher aux clients au bout ? Parce que c'est quand même ça qui est important aussi.
Alors, il faut regarder le coût total de la mobilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, les véhicules électriques à l'achat et à la location également coûte à la journée en général un petit peu plus cher que leur équivalent thermique, mais quand vous ajoutez à cela les économies que vous pouvez faire par exemple de carburant, eh bien on se rend compte que il y a des offres d'électromobilité qui sont particulièrement attractives. Et puis ensuite, c'est aussi une mobilité qui est plus adapté à certains besoins. Hein. Évidemment, quand vous partez en vacances et que vous avez des grandes distances à faire, c'est peut-être pas le choix, le premier choix que vous allez faire. En revanche, pour des déplacements urbains, hein, je pense par exemple à des vacanciers qui resteraient à proximité de leur lieu de résidence pour l'été, eux peuvent par exemple s'initier à la location d'un véhicule électrique.
Eh bien, merci beaucoup pour tous ces détails, Jean-Philippe Doyen. Je rappelle que vous êtes le patron de SIX, le loueur de voitures. Un grand merci d'avoir été notre invité. Nous, on se retrouve
merci
demain,
à vous.
22h20 sur Europe.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. On vous retrouve également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayac. Vous nous parlerez goûter et vente en vrac avec votre invité, le patron de Michel et Augustin. 22h28 sur Europe 1, et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Ça sent bon pour le climat, c'est le titre de 20 minutes avec pour illustration Joe Biden, le président américain qui va réunir demain et vendredi 40 dirigeants mondiaux pour le sommet de la Terre. C'est aussi la une des Échos. Climat, l'Europe et les États-Unis en fer de lance, écrit le quotidien économique. Les pays membres de l'Union européenne se sont en effet engagés ce matin à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Le président chinois Xi Jinping participera à ce sommet sur le climat, tout comme Vladimir Poutine, ce qui fait dire à Denis Domin dans La Nouvelle République que le climat, justement, va être tendu vu le discours musclé qu'a tenu aujourd'hui le président russe, truffé de menaces envers ses rivaux occidentaux qu'il appelle à ne pas franchir la ligne rouge. Vieux réflexe de kagébiste, écrit l'éditorialiste. De quelle ligne rouge parle Poutine ? On ne sait pas, il n'a pas dit un mot sur l'Ukraine où il a massé près de la frontière 100 000 soldats russes, ni sur Navalny, son opposant, qui laisse dépérir en prison. À lire donc demain dans La Nouvelle République. Dans un instant, la libre antenne, mais avant un dernier crochet au Groupama Stadium où l'on retrouve en direct Maxime Choche, dernier quart de finale de la Coupe de France et l'Olympique Lyonnais qui est en train de s'incliner à domicile face à l'AS Monaco, Maxime.
Exactement, le vent qui a tourné pour l'Olympique Lyonnais qui menait pourtant largement cette rencontre et là qui vient d'encaisser un deuxième but à l'heure de jeu par Kevin Folland. Je vous le disais, il y a de ça quelques minutes, le duo Ben Yedder-Folland qui était muet en première mi-temps, eux qui sont d'habitude si prolifiques en Ligue 1, et bien là, en l'espace de 10 minutes, et bien c'est d'abord Wissam Ben Yedder sur pénalty à la 55e minute qui bien a permis à son équipe de mener 1-0. Et maintenant, c'est l'international allemand de l'AS Monaco, bien servi dans la profondeur par d'abord Golovin et puis Ben Yedder qui, d'une belle frappe du droit, là, sans se poser de questions, sous la barre de Paul Herzbeck, donne 2 buts d'avance à son équipe dans ce quart de finale. C'est très mal embarqué pour les joueurs de l'Olympique Lyonnais qui sont réduits à 10 depuis la 55e minute de jeu suite à l'expulsion de Sinali Diomandé, expulsion et pénalty donc qui a amené l'ouverture du score de Ben Yedder. Un match très avec beaucoup de tension puisqu'il y a 6 cartons jaunes et 2 cartons rouges, mais donc après 62 minutes de jeu, 2-0 pour l'AS Monaco ici au Groupama Stadium face à Lyon.
Merci beaucoup Maxime Choche en direct de Lyon pour Europe 1. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
39-21 pour vous appeler immédiatement et témoigner dans la libre antenne qui débute donc maintenant.
Exactement. Et nous, on se retrouve pour votre flash d'ici une petite demi-heure.
À tout de suite.
À tout de suite.